Bonjour à tous. Avant le début d'été, j'ai cherché un livre de la Bible à lire pour me concentrer sur un seul livre de la Bible. Donc j'ai feuilleté une partie de la parole de Dieu et finalement je me suis arrêté sur 1 Corinthiens. Donc c'est un peu le fruit de ma lecture de cet été, au chapitre premier, si on va mieux vaut commencer par le chapitre premier, qui m'a beaucoup interpellé. Je connaissais déjà, j'avais lu certaines choses, plusieurs parties de la Bible. Mais cet été, j'ai été interpellé par 1 Corinthiens. J'aimerais que nous lisions ce matin 1 Corinthiens au chapitre premier. Verset premier. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelé à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dis, je rends grâce à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des divisions au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dis, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. À peu près en 145 avant Jésus-Christ, la ville de Corinthe, la ville la plus romaine et prospère des cités grecques, fut détruite par les Romains parce que les Corinthiens avaient pris la tête d'une coalition de la Ligue Achéenne pour combattre l'armée romaine. Donc le général Lucius, général romain, détruisit toute la ville. Ce n'est qu'en 44 avant Jésus-Christ que Jules César décida de reconstruire Corinthe pour s'assurer la maîtrise des routes vers l'Orient. Donc la nouvelle Corinthe devenue colonie romaine fut d'abord peuplée par des vétérans de l'armée romaine à qui l'empereur souvent accordait des facilités pour s'installer dans des colonies. Et en plus des vétérans, il y eut aussi des affranchis, c'est-à-dire des esclaves rendus libres. Pour éviter des troubles à Rome à cause de l'injustice sociale, plusieurs affranchis ainsi que certains esclaves furent envoyés à Corinthe. Donc la ville de Corinthe ne tarda pas à retrouver son ancienne prospérité de grands ports et de grands carrefours commerciaux. Même sa population augmenta rapidement par un flux de gens venus de tout l'Empire romain. Donc, on pouvait rencontrer à Corinthe des Romains, des Grecs, mais aussi des Égyptiens et des Orientaux, parmi lesquels un certain nombre de Juifs, y compris, dont il se trouvait une synagogue dans laquelle même s'est rendu l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile. Acte 18 nous le montre clairement. Donc, dans cette synagogue se trouvait, bien sûr, Priscille Aquila, qui jouèrent plus tard un rôle important. Et c'est à Corinthe que se trouvait aussi le proconsul Gallion, frère du philosophe Sénèque. Donc, si Rome dominait politiquement, mais la culture grecque avait pris le pas sur la culture latine. Et c'est ainsi que le poète Horace a pu dire « La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur ». Si nous essayons de voir un peu le contexte géographique, en jetant un coup d'œil sur une carte biblique, vous remarquerez que la ville de Corinthe se situe au sud de la Grèce, dans la province d'Achaïe, dont à 80 km d'Athènes. Et cette partie basse d'Athènes est reliée au reste de la Grèce par un isthme, une bande de terre de 6 km de large. Donc cette position géographique permet à Corinthe de bénéficier du commerce nord-ouest dans la région. La ville a augmenté profitablement de ce commerce, non seulement avec l'ensemble de la Grèce, mais encore avec des régions de la Méditerranée, y compris jusqu'à l'Afrique du Nord. On constata un brassage de population, comme toujours, qui entraîna aussi un brassage d'idées. Le développement des relations commerciales favorisait l'introduction aussi des divinités égyptiennes, orientales, des nouvelles religions comme la philosophie. Donc à Corinthe, comme dans les villes gréco-romaines, la société était structurée de manière très inégalitaire. Toute la vie sociale de la cité tournait autour de la reconnaissance, du respect des différents du statut. Il paraît que les distinctions sociales étaient considérées comme un fait de nature qu'on ne pouvait qu'accepter. Cette injustice, il fallait que l'accepter. Le remettre en question, c'était saper même les fondements de la société. Ça nous permettra de comprendre vraiment les raisons de la résistance de certains dans l'Église quand l'Évangile sera prêché. Et au-delà de cette injustice sociale qui avait atteint même l'Église de Jésus-Christ, il y avait aussi des problèmes d'immoralité. Corinthe était tellement si corrompue que son nom était devenu synonyme de débauche, de dépravation morale. On dirait aujourd'hui, même on le disait, corinthisé, était pire, était vraiment fait preuve d'une immoralité dégradante associée à la débauche, à l'ivrognerie. Et ce dérèglement moral de la vie reposait sur la liberté des mœurs. Cette débauche était tellement ancrée chez les Corinthiens qu'on la trouvait même dans la vie des croyants et dans la vie de l'Église. Personne qui avait accepté Jésus-Christ continuait à vivre comme dans la société. Je pense qu'en réfléchissant, cet esprit peut envahir nos églises aussi au XXIe siècle. J'entends tout plus que tout le monde le fait pour la liberté des mœurs. Je peux croire en Dieu et mener ma vie comme tout le monde si je ne fais de mal à personne. Ça, c'est déjà des pensées aussi peu venir dans notre vie. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul montre que l'apôtre Paul créa l'église de Corinthe. Il demeura 18 mois à Corinthe. En arrivant à Corinthe, comme d'habitude, il commença par annoncer d'abord l'évangile dans la synagogue, dont les premiers convertis furent des Juifs, dont le chef de la synagogue que nous savons Crispus. Mais l'hostilité de certains Juifs de la communauté le poussa à se tourner vers les Grecs pour l'évangélisation. Pour l'apôtre Paul, chrétien d'origine juive, le relâchement des mœurs des Corinthiens ne pouvait que le choquer. Mais il resta quand même 18 mois pour former un peuple qui lui appartient. Un peuple qui appartient à Dieu. Dieu dit à Paul en vision la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Malgré le désordre qui pouvait exister, le Seigneur lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça, c'est une leçon que j'ai pu tirer aussi. Quel que soit le péché dans lequel un frère ou une sœur peut tomber, nous avons la responsabilité toujours d'aller leur présenter l'évangile de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau de débauche dans laquelle est tombée notre société, nous devons continuer à parler de l'évangile de grâce. La société a besoin d'entendre l'évangile de grâce. Nous sommes appelés tous, frères et sœurs, à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de grâce. Après la formation de l'Église, pendant 18 mois, il partit de Corinthe. Loin de Corinthe, il reçut une lettre du membre de l'Église lui annonçant qu'il y avait des troubles dans l'Église. Il réagit ici en envoyant l'évangile que nous avons aujourd'hui. Mais il réagit d'une façon très qui m'a beaucoup interpellé. Il réagit par cette épître en manifestant l'âme, avec l'âme d'un berger, l'âme d'un père attentionné. Il aurait pu commencer sa lettre en disant aux Corinthiens, vous êtes des pécheurs. Vous vivez dans le péché, vous vivez dans la débauche, repentez-vous. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Non. Il commence sa lettre par des salutations d'usage. Dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul amène d'abord à prendre conscience, amène les Corinthiens à prendre conscience de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas s'affermir dans leur vie chrétienne s'ils n'avaient pas pris conscience de leur nouvelle vie en Christ, de leur nouvelle vie, de leur nouvelle identité. Ce qu'il dit ici au chapitre 1er. Il dit ici, j'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Que nous pensons à l'histoire du désordre dans lequel il vivait, il met d'abord l'accent. Vous êtes l'église de Dieu. L'église de Dieu qui est à Corinthe. Un peuple de Dieu appelé hors d'eux. Dans le terme ecclésia, vous pouvez désigner une assemblée, dont il y avait des assemblées dans tout Corinthe, il y avait des associations, comme il existe aujourd'hui. Mais vous êtes différents, vous êtes une église de Dieu, une église qui appartient à Dieu. L'assemblée de Corinthe n'était pas une assemblée ordinaire, mais une assemblée de Dieu dans laquelle habite l'Esprit de Dieu. Il dit ici, vous êtes sanctifiés en Jésus-Christ. Le Corinthien, comme tout chrétien né de nouveau, est déclaré saint en Jésus-Christ. Il est déclaré saint. Le saint n'est pas un homme, comme fait certaines assemblées, l'église catholique. C'est pas un homme ou une femme mort qui a été récompensé par ce titre. Non, c'est Jésus-Christ qui nous a rendus saints. Il fallait qu'ils le comprennent, qu'ils sont saints en Jésus-Christ. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part. Il répète ces termes. Vous êtes l'Église de Dieu. Vous êtes sanctifié en Jésus-Christ. Vous êtes des saints par vocation. Il fallait qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Il fallait que les nouveaux chrétiens comprennent ce qu'ils sont devenus avant d'avancer. Nous avons été sanctifiés. Le fait que Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis à part, il nous encourage ici à vivre une vie sainte. Une vie qui le glorifie. Le salut, c'est un acquis. Mais notre vie au quotidien doit refléter notre salut. Notre foi en Dieu n'est qu'un départ dans la vie en Christ. Dieu appelle ceux qui lui appartiennent à un profond changement de mentalité et de comportement. Le professeur de philo d'éthique, André Dumas, dit ceci. Celui qui se remet à Jésus-Christ doit se démettre de ses anciennes habitudes de vie et de pensée pour se soumettre à son Seigneur. Celui qui se remet à Jésus-Christ doit se démettre de ses anciennes habitudes de vie et de pensée pour se soumettre à son Seigneur. Paul ici nous encourage à soumettre notre vie tout entière au Seigneur. Il reprend ces termes aux 2 Corinthiens. Il dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous. C'est quelque chose de doit être continuel. Nous purifier de notre manière de vivre, de toutes ces souillures, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Il continuera ici au verset 4. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Les Corinthiens sont enrichis de toutes les richesses en Dieu. Et sur la suite de la lettre ici, quand nous la lisons, nous voyons, revient de l'importance, sur l'importance de la grâce de Dieu envers les Corinthiens. Envers les chrétiens, la grâce de Dieu nous est accordée en Jésus-Christ. Il rend grâce pour ce que Dieu a fait pour les Corinthiens et non pour ce que les Corinthiens font pour Dieu. Il essaie d'exprimer sa gratitude à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce que Dieu fait pour nous. Si la grâce de Dieu est la source de notre salut, comme nous le voyons dans la Bible, elle est constamment présente et active dans la vie du croyant. Cette grâce est l'œuvre dans l'Église, est à l'œuvre dans l'Église. Elle était à l'œuvre dans cette Église qui était presque désorientée, mais la grâce de Dieu était là. L'apôtre Paul nous rappelle à être des imitateurs, à être ses imitateurs, comme il était l'imitateur de Jésus-Christ. Les Corinthiens sont comblés de toutes les richesses de la parole, de la connaissance. Ils sont riches en dons spirituels. Les rappels qu'ils étaient riches en dons spirituels, ils étaient appelés donc à étudier la parole de Dieu et à faire confiance à cette parole pour annoncer le message de l'Évangile. La parole de Dieu reste l'instrument indispensable pour le salut et la croissance des âmes. Nous le savons, on est ces versets bibliques. Toute parole de Dieu est inspirée et utile pour enseigner afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et cette parole, il le dira ici dans 1 Corinthiens. Et cette parole a été établie parmi les chrétiens de Corinthe. Et Dieu se porte garant de la vérité de l'Évangile en comblant les Corinthiens de toutes sortes de dons spirituels. Ils ont été mis à part par Dieu. Ils sont enrichis de toutes les richesses spirituelles en Dieu. Il est ici, il est dit, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les Corinthiens sont dépendants de la fidélité de Dieu. Lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, il n'abandonnera aucun de ses enfants. La confiance que Paul exprime ici et même dans plusieurs de ses lettres se fonde sur la solidité, pas sur la fidélité des Corinthiens, mais sur Dieu. Dieu est fidèle. Mais il nous dit, ce n'est pas une garantie pour vivre dans le péché. Ce n'est pas une garantie pour vivre dans l'air du temps. Il insiste ici sur cette importante grâce pour nous faire prendre conscience que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme des citoyens de ce royaume céleste. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Rien ne pourra plus nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Rien ne pourra plus nous séparer parce que nous sommes meilleurs, non. Parce que Dieu est fidèle. Il est digne de confiance. Celui qui prend Dieu pour appui ne sera jamais déçu. Nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Il nous appelle à marcher. Marchons comme des enfants de lumière. Dieu nous appelle ici à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Je fais cette dernière partie. pour que les Corinthiens soient pleinement engagés dans l'annonce de l'Évangile, il fallait aussi qu'ils évitent des divisions dans l'Église. Au verset 10, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, car j'ai appris par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Nous ne pouvons pas nous engager pleinement dans l'Évangile s'il y a des divisions dans l'Église. Paul aborde ces problèmes des divisions. Un membre de la communauté lui avait fait part des tensions qui existent à l'Église. On ne sait pas très bien de qui étaient des gens de Chloé. Comme disait un commentateur qui m'a fait rire, il félicitait les gens de Chloé pour leur courage et leur dévouement. Ils n'ont pas caché, les gens de Chloé n'ont pas caché les problèmes. Ils s'en étaient préoccupés, ils allaient trouver la bonne personne. C'est vrai que nous avons tendance dans un langage populaire que le linge sale se lave en famille. Mais ici nous voyons que oui, ces gens de Chloé, aimant leur église, ont voulu faire part à Paul de ces problèmes. Est-ce que ce fut une preuve de sagesse? En tout cas, par cette lettre, Dieu intervint dans la vie de l'église de Corinthe. Quelles furent ici, pour avancer, quelles furent les causes des divisions dans l'église? Quelles furent les causes? Les Corinthiens voulaient, comme dans la société, des maîtres à penser. Ils voulaient des maîtres à penser. Comme je l'ai souligné, les Corinthiens étaient influencés par la mentalité largement répandue dans la Grèce de l'époque, où les philosophes rivalisaient d'éloquence pour s'attirer des disciples, se vantaient de sa supériorité sur les autres, faisaient même partie du règle du jeu. Et cela créait malheureusement un esprit partisan. Ici, certains se disaient de Paul, dont ils voyaient chez Paul le grand théologien, l'homme de grande culture, l'homme formé au pied de Gamaliel, grand théologien juif. Alors que pour l'apôtre Paul, il n'a jamais encouragé cette course aux disciples. Quand il parle de lui, il se présente comme le premier des pécheurs. Il le dira ici au chapitre 2. Il dit aux Corinthiens, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà comment il se voyait, l'apôtre Paul. Les autres voulaient des grands maîtres à penser. Non, lui, il était venu juste annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Les autres chrétiens se disaient d'Apollos, une des causes de division. L'homme plein, parce qu'Apollos, quand vous lisez le chapitre 18 des Actes, c'était un homme plein d'éloquence. Et l'éloquence était très prisée à Corinthe. De plus, Apollos venait d'Alexandrie, un des centres intellectuels les plus réputés de l'Empire romain. Donc, certains chrétiens instruits à l'église de Corinthe avaient pris Apollos comme maître à penser. Apollos, même avec son éloquence, avait été formé par Priscille et Aquila, les disciples de Paul, dont il n'a jamais cherché à faire des disciples, à faire un petit groupe qui puisse se réclamer de lui. D'autres encore ici se disaient de Céphas, vu comme le vrai conservateur des traditions de nos pères. Oui, alors que Céphas n'avait jamais rendu visite à l'église de Corinthe. En tout cas, aucun écrit ne fait allusion à sa visite à Corinthe. Certains partisans de Céphas, bien sûr, dont des judéo-chrétiens, pour eux, Pierre était vraiment l'homme de situation, l'homme qui était attaché aux traditions. D'ailleurs, il a fallu que Dieu interpelle, même Pierre le pousse à aller vers des non-convertis. Il lui avait dit, tu et mange ce que Dieu déclare pur. Tu ne peux pas le déclarer impur. Quelle que soit l'origine de l'autre, s'il est en Jésus-Christ, considère-le comme pur, considère-le comme ton frère. C'est vrai que pour ces chrétiens d'origine juive, la liberté de Paul à l'égard de la loi juive les effrayait un peu. Paul disait, oui, le Seigneur m'a envoyé vers des païens, dont il était libre, bien sûr, en restant attaché à la parole de Dieu. L'apôtre Paul rappellera aux chrétiens de Corinthe que ce soit Apollos ou Paul lui-même, ce ne sont que des instruments pour la cause de l'Évangile. Ce ne sont que des instruments. Pour une assemblée comme la nôtre, qui a connu plusieurs pasteurs, des pasteurs avec des sensibilités différentes, des éloquences différentes, peuvent nous amener souvent à avoir ce genre de pensée. Moi, je suis d'eux. L'apôtre Paul rappelle ici que ce ne sont que des serviteurs pour la proclamation de l'Évangile. Ces hommes et ces femmes ont été que des serviteurs pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est tout. À l'église de Corinthe, même il y avait certains qui se disaient de Jésus-Christ, de Christ. Vous dites que c'est peut-être l'histoire des Corinthiens. Mais pendant des années, j'ai appartenu à des groupes qui se réclamaient des biblicistes. C'était pas mal. Mais le problème était, nous sommes les seuls à être dans la vérité, puisque nous nous appuyons que sur la Bible. Les traditions, ce n'est pas notre problème. Nous sommes. Il n'y a aucun mal à ressembler à Jésus-Christ. Il n'y a aucun mal à marcher comme il a marché, à faire tout pour la gloire de Dieu. C'est vrai que nous sommes pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est ce que la Bible nous encourage. Mais l'esprit dans lequel il le disait ne correspondait pas à l'esprit de Dieu. L'esprit qui prédominait dans ce groupe était, nous ne sommes pas comme les autres. Il peut nous arriver, frères et sœurs, que nous pensions fortement que nous sommes mieux que les autres. Avec, des fois par l'expérience du temps, avec l'âge, on acquiert de l'expérience. Avec une certaine instruction, nous pouvons être amenés à tomber dans ce péché d'orgueil et oublier la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Il nous a appelés pour la proclamation de l'Évangile autour de nous. Les chrétiens de Corinthe étaient aussi fiers de ceux qui les avaient baptisés. Ici, le chapitre 14 à 17. Paul leur dira au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul leur dira, j'ai baptisé Crispus, l'ancien chef de la synagogue, un de ses premiers convertis, Gaius, qui a été son hôte à Corinthe, et Stéphanas. Quand on lit cela, on peut penser, est-ce que Paul était contre le baptême? Non, pas du tout. Il savait que c'est Jésus Christ qui l'avait ordonné. Quand une personne vient à Christ, la Bible encourage à passer par les eaux du baptême. Il ne minimise pas le baptême, il s'y pose, mais il place il place même baptême comme un pilier de la vie chrétienne. Mais à la lecture des épîtres de Paul, c'est plus la prédication de l'évangile et non le baptême sur lequel il met l'accent, car c'est la prédication de l'évangile qui transforme les cœurs. Il a dit, le baptême, il n'y avait aucun rite là-dessus. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile de Jésus-Christ en évitant des divisions. Et ici, en travaillant d'un même cœur. Ce qu'il a dit au verset 10, j'ai lu. L'apôtre ne donne pas un ordre ici aux Corinthiens, mais il les encourage à aller dans la même direction. Il dit, je vous exhorte, mes frères. Il s'associe à eux. Il dit, je vous exhorte, mes frères. La mission en vaut la peine. Si nous vivons dans les divisions, nous ne nous focaliserons plus sur l'annonce de l'évangile, alors que le Seigneur a encore un grand troupeau dans cette ville, dans cette région parisienne, le Seigneur a encore un troupeau. Parce que plusieurs ont marché cet été à Paris, peut-être ceux qui n'ont pas été envoyés, n'ont pas eu cette occasion d'aller ailleurs. Mais en marchant cet été à Paris, comme j'aime le faire, je me suis arrêté à la mairie de Paris, où la grande cour a été bloquée. Je regarde, on lit bien, c'était de Gegens. Gegens. Après le Gegens, qu'est-ce que nous aurons? C'est la journée des fiertés. Tu as dit quelque chose aujourd'hui. On va dire, mais c'était Sodome et Gomorre. Quand on parle de Sodome et Gomorre, on va nous dire, non, mais ça reste maintenant dans des mythes. Quand on va nous parler des Corinthiens, on va dire, mais oui, il y a 20 siècles. Non, aujourd'hui encore, des journées de fierté. Fierté d'être homosexuel. Les choses s'affichent aujourd'hui. Le Seigneur le dit ici. Si nous nous glorifions, si nous voulons être fiers, qu'on se glorifie dans le Seigneur. Si je me glorifie d'appartenir à Dieu, à un Dieu vivant, et à vivre pour lui. S'il y a des divisions parmi nous, nous détruisons aussi la communion qui doit exister entre frères et sœurs en Christ. Ici, l'apôtre Paul les exhorte aux Corinthiens à tenir tous un même langage. Soyez dans la même pensée et la même opinion, puisque nous sommes sous l'influence du même esprit, des mêmes doctrines. Mais comprenons, chers amis, que la Bible ne nous appelle pas à l'uniformité de la pensée. Dieu n'a jamais voulu faire de nous des clones qui réagissent de la même façon. Quand on fait une expérience personnelle avec le Seigneur, Dieu ne touche pas ce qui fait notre caractère unique. Il va utiliser ce caractère pour faire de nous des membres particuliers de son Église, qui est son corps, en vue de l'édification de ce corps. L'encouragement de Paul ici aux Corinthiens, le mot aussi en plein accord, ce sont des termes médicaux qui décrivent l'unité du corps humain dont les membres sont soudés ensemble. Nous aurons toujours des sensibilités différentes, des caractères différents à cause de l'éducation des parents, de l'influence de notre environnement, de l'instruction que nous avons reçue. Nous serons souvent différents, même des dons différents que nous avons reçus du Seigneur. Nous avons reçu des dons, mais des dons différents. Il y a ceux qui captent très vite une information, il analyse et la met en pratique. C'est un don. Il y a ceux dont il faut du temps pour comprendre et du temps pour mettre en pratique ce qu'ils ont compris. Il y a d'autres encore, comme la plupart d'entre nous, comme moi, qui se disent souvent, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu pour nous aider à avancer. Mais le Seigneur ne nous a équipés, chers amis, ne nous a pas équipés de la même manière. Le Seigneur nous a appelés ce matin pour se rentrer à chercher l'harmonie au sein de son Église avec nos différents dons. Chercher l'harmonie. Il y a des questions de longue date, il y a des nouveaux, mais le Seigneur nous demande ici, avec nos sensibilités différentes, d'aller de même pas, pour l'édification de l'Église, pour l'annonce de l'Évangile dans cette ville, une Église unie devient forte dans l'évangélisation. Nous pouvons aller distribuer des traités, nous pouvons donner à manger aux gens, ça c'est une bonne chose. Mais quand ces personnes viennent à l'église, qu'on a des divisions, qu'on pense des querelles, le prochain dimanche, ils prennent de vol. C'est moyen d'évangélisation aussi, chers amis, être unis. Faisons tout notre possible pour l'avancement du royaume de Dieu et surtout pour sa gloire. Prions. C'est notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour les dons, les différents dons que tu as donnés à l'Église. Nous te remercions pour les pasteurs et docteurs que tu as donnés à ton Église. Nous te remercions pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Oui, Seigneur, que nous n'oublions jamais que nous t'appartenons. Que nous soyons fiers de toi, fiers d'appartenir à ton peuple. Oui, Seigneur, donne-nous la force de vivre pleinement pour toi et pour ta gloire seule. En Jésus-Christ. Amen.